La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, je peux vous dire qu'on est dissipé aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Impossible d'aller jusqu'à la pharmacie, grippe, fièvre, seul chez vous. Et si la pharmacie venait à la maison? Oui, Pharma, eh bien, nous le propose puisque c'est la solution, Elisabeth.
Oui, une pharmacie de quartier à la maison, chez vous, grâce à des livreurs, mais pas n'importe quel livreur. Hein. Ce sont des livreurs solidaires. Hein. C'est une start-up, WePharma, qui vous permet donc de vous faire livrer vos médicaments par, pourquoi pas, un habitant du quartier, par la pharmacienne directement. La livraison payante à 4 euros finance une livraison gratuite à une personne âgée de la même ville. Les livreurs, donc, c'est l'équipe de la pharmacie, des professionnels de santé à domicile, des conciergeries de santé ou tout simplement vos voisins solidaires. Quand il y a une demande spécifique liée à l'ordonnance, là, seule l'équipe de la pharmacie effectue les livraisons parce que c'est peut-être un petit peu plus sérieux. Bonjour Annabelle Champagne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de WePharma. Alors d'abord, WePharma, c'est une histoire avec votre sœur.
Exactement. C'est à la base deux sœurs pharmaciens qui ont travaillé en industrie pharmaceutique.
Donc
dans
c'est
des domaines...
vous et votre sœur.
Exactement.
D'accord.
Et on est toutes les deux pharmaciens, voilà, d'une paire. Et ça nous a permis en fait de travailler en oncologie, dans des hôpitaux et aussi en ville avec les officines et de voir qu'en fait, il n'y avait pas de prise en charge ni d'optimisation des soins pour faciliter la prise en charge du patient en ville dès sa sortie hospitalière. Donc concrètement, vous avez par exemple une chimiothérapie orale, on vous demande de la prendre en ville, vous partez de l'hôpital sans vos médicaments.
Là, vous êtes seule.
Voilà. Et la difficulté de l'officine aussi de s'approvisionner dans des produits qui sont chers par le grossiste et pas toujours non plus dans les stocks. Donc le patient souvent rappelle l'hôpital, doit rappeler la PJ, doit repasser à l'hôpital chercher ses médicaments. Et ça, aujourd'hui, ça nous semblait incompatible avec la digitalisation et le fait qu'en ville, finalement, on n'est pas seul. Il y a plein de gens autour de nous, des bénévoles, des associations aussi au sein des hôpitaux, mais aussi en ville, qui peuvent vous aider. Et ça nous a beaucoup touchés. On s'est dit, pour que les patients soient plus seuls, que vous soyez jeune ou pas jeune ou moins jeune, dans cette problématique-là, aujourd'hui, tout le monde pourrait me livrer mes médicaments avant ma sortie hospitalière pour que je rentre chez moi avec une à deux semaines de traitement et ensuite que le relais soit pris par ma pharmacie de ville qui pourrait faire mon suivi thérapeutique, médicamenteux, mon observance. Et mes bénévoles et mes voisins sont des gens de quartier, en ultra-local grâce au digital, qui pourraient venir m'aider.
Alors comment ça marche? Vous les avez trouvés comment, tous ces voisins solidaires? C'est votre appli?
Alors exactement, donc sur l'appli, l'appli c'est une appli sécurisée dans votre ordonnance qui efface toutes les données de santé, qui permet de joindre facilement sa pharmacie de quartier, qu'on soit patient et aidant, pour mettre en place le système WePharma. Donc on n'a pas de manipulation aujourd'hui de données de santé, carte vitale, carte mutuelle par les livreurs. Tout est déjà fait avec la pharmacie. Uniquement l'ordonnance. Et puis, nos communautés, on les monte sur Facebook aujourd'hui avec des WePharma ambassadeurs, donc patients, aidants, bénévoles, pharmaciens. On permet vraiment aux gens de s'aider et s'entraider. On travaille avec des associations, des centres de bénévolat. On est bien développé dans le 92 grâce aux mairies, aux CCAS et aux CLIC qui relaient l'information.
Mais alors, par exemple, si j'ai une ordonnance, je me connecte sur votre appli, mais qu'est-ce que j'en fais, mon ordonnance? Comment elle arrive à vous?
Alors, vous la prenez en photo.
Okay,
et vous choisissez.
On peut tous le faire.
On peut tous le faire parce que l'objectif, c'est que même les personnes âgées peu digitalisées puissent utiliser WePharma.
Donc, on la prend en photo et ensuite, on vous l'envoie directement sur votre
serveur. Vous choisissez votre pharmacie WePharma proche de chez vous.
Donc, elle est géolocalisée grâce à votre appli.
Exactement. Et surtout, si elle est trop loin, elle vous la fera, enfin, vous ne donnera pas l'ordonnance parce qu'elle vous dira qu'elle est trop loin. Nous, l'objectif, c'est vraiment la proximité du lieu de livraison avec la pharmacie et qu'un pharmacien et un patient se connaissent. C'est du sens et du bon sens. C'est remettre de l'humain grâce au digital. C'est refaire du facteur de lien social grâce au digital. Et vraiment, on remet ce facteur humain qui est au cœur de WePharma. Donc, c'est pour ça que, du reste, que le logo est un cœur. C'est vraiment le lien social.
Laurent.
Et de proximité, c'est formidable, c'est une initiative fantastique. Moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre, mais vous allez me dire, est-ce qu'en cas d'urgence, parce que c'est souvent aussi un peu le sujet, ça aide ou au contraire, ça ne répond pas du tout?
Alors, ça répond aux officines de ville qui sont ouvertes sur les horaires de l'officine. Et après, vous avez bien évidemment les officines qui sont ouvertes en nocturne. Donc, si vraiment vous êtes sur un cas d'urgence, les officines en nocturne, bien évidemment, on peut joindre aussi des bénévoles, des voisins, parce qu'on crée une communauté d'entraide. Donc, si par exemple, j'ai Paul qui est déjà venu m'aider, qui est un bénévole de l'association, que je suis chez moi, que je suis bloquée avec les enfants, effectivement, je peux lui demander d'aller chercher mes médicaments. Parce que nous, l'objectif, c'est que les gens se connaissent et réapprennent à se connaître via du lien social. On n'est pas toujours obligé non plus de tout digitaliser. Le digital, c'est on se rencontre, Mais après, vous pouvez avoir le numéro de Paul et le joindre directement. La partie vraiment livraison, elle est externalisée pour ça. Moi, quand j'ai un problème, par exemple, je peux appeler mes voisins qui sont en face de chez moi. Aujourd'hui, on n'a pas tous la chance d'avoir des voisins ou des bénévoles qu'on connaît via les centres de bénévolat. Et WePharma, ça vous permet ça. Et l'urgence, elle est très relative. Alors ça, c'est la pharmacienne qui parle. Parce qu'après, quand j'ai SOS médecin qui passe chez moi et que le médecin estime que je peux attendre l'horaire d'ouverture de la pharmacie, oui, aujourd'hui, j'estime que j'attends l'ouverture de ma pharmacie et je suis livrée. Par contre, ce qui est super pratique sur l'appli, c'est qu'il peut être 11h du soir, minuit, 4h du matin.
Ce sera livré première heure demain matin.
Voilà, et j'envoie l'ordonnance quand ça m'arrange à mon pharmacien, parce que c'est du comptoir online de la pharmacie avec une analyse humaine de votre ordonnance. Et le patient et le pharmacien se connaissent, c'est très important pour nous.
La livraison de médicaments, c'est quelque chose qui est très encadré, très sécurisé. Comment on fait justement pour arriver à digitaliser tout ça? Est-ce que n'importe qui peut venir chercher? Est-ce que vous faites un retour sur un tri, si j'ose dire?
Exactement. Si on vous commande 10 boîtes d'antidépresseurs, vous dites qu'il y a peut-être un petit souci.
Alors justement, ça c'est une excellente question et je vous en remercie. L'objectif, en fait, c'est les 10 boîtes, elles ne peuvent pas être commandées parce que quand un pharmacien voit 10 boîtes, je pense que concrètement, soit il s'étouffe, soit
de toute
possible.
Manière, il n'a pas le droit de les donner.
Et puis, il vous connaît et il sait que vous n'en avez peut-être pas besoin.
Pour la première, il ne vous connaît peut-être pas forcément.
Voilà. Alors, pour la première fois, il ne vous connaît pas. S'il ne vous connaît pas, justement, c'est à lui de prendre contact avec vous pour vous connaître et apprendre à vous connaître.
Par téléphone ?
Alors, par téléphone ou surtout, ce qu'on fait, c'est une livraison en deux temps. Si vraiment on ne vous connaît pas, on va chercher votre carte vitale, votre ordonnance et votre carte de mutuelle pour pouvoir déjà facturer à l'officine. Donc déjà, il y aura cette prise de conscience-là et de connaissance avec votre pharmacien. Et ensuite, vous allez être livré et le reste des livraisons pourra se faire de manière automatique.
Vos principaux concurrents, c'est La Poste et Amazon. Comment vous vous démarquez
Alors, exactement. Donc vous, c'est les deux concurrents que vous venez de citer, ils sont sur de l'exécution, des nuits d'humain. Et nous, tout est situé sur l'humain avec une bonne qualité d'exécution. Déjà parce qu'on aura la flexibilité d'une start-up. On pourra aller partout parce que des bénévoles, des voisins solidaires, vous en avez partout en France. Et on n'aura pas de notion de rentabilité comme eux, absolument, d'être rentable sur la partie livraison, puisque nous, nos livraisons sont quand même dans l'objectif, c'est de créer des communautés d'entraide gratuites.
Et autre acteur, comment l'OCP réagit à votre initiative, par exemple ?
Alors, aujourd'hui, ils sont certainement au courant, parce qu'on avait quand même lancé depuis longtemps. Aujourd'hui, nous, l'objectif, ce n'est pas d'être référencé par un grossiste. L'objectif pour nous, c'est d'être au sein de toutes les officines de France et que toutes les pharmaciens réussissent à s'unir sur une plateforme solidaire comme WePharma autour d'un facteur de développement de liens sociaux et de communauté d'entraide. Parce que je pense qu'on peut tous un jour être malade chez vous et personne n'a envie d'être seul.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de WePharma. C'était la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Merci. Restez avec nous. On va s'intéresser à un dossier important, celui de l'apprentissage du code aujourd'hui. Apprendre à coder, on est de plus en plus nombreux à le faire, qu'on soit enfant ou adulte. Et ce soir, eh bien, c'est la Coding Act. À tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans La France bouge. Ici, vous le savez, on aime observer, ressentir les grands changements qui se profilent, ceux qui sont en cours, ceux qui impactent notre société. Et c'est le cas aujourd'hui avec une filière que nous connaissons mal encore. Nous connaissions mal encore il y a 20 ans. Et pourtant, elle se développe à vitesse grand V, s'invite aujourd'hui dans les écoles. Coder est devenu une quasi-évidence en 2020. Et ça, grâce à des Français qui ont senti qu'il fallait développer les choses. C'est votre cas, Claude Thérosier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Magic Makers. Alors, votre idée, c'est de permettre justement aux enfants d'apprendre à coder pour apprendre à créer. Cette prise de conscience chez vous, elle s'opère en 2012. Il faut dire que vous êtes ingénieur spécialisé dans les télécoms.
C'est exactement ça. J'ai passé mon diplôme au début d'Internet, à la fin des années 90. J'ai réalisé en 2012, quand mon fils aîné avait 8 ans, que je comprenais ce qu'on était en train de vivre avec le numérique qui était partout. On faisait nos courses sur Internet, on commençait à déclarer nos impôts en ligne. Enfin, ça commençait à changer la vie privée des gens. Et moi, j'ai réalisé que je comprenais ce qu'on était en train de vivre parce que j'avais eu la chance de faire une école d'ingénieur, d'apprendre à coder quand j'avais 20 ans. Et que, en fait, c'était pas normal. Et que J'ai aussi repensé à la manière dont j'ai appris à programmer quand j'avais 20 ans, où c'était un peu arbitraire, compliqué. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme si je m'étais mis au piano à 20 ans, c'est super dur de commencer la musique tard. Le code, c'est un peu pareil. Si on commence enfant et qu'on fait des trucs simples, concrets, ludiques...
Ça devient une évidence.
Exactement.
Alors justement, vous faites ce constat, vous regardez aussi ce qui a été fait pendant les 10 dernières années, puis vous regardez, grâce à un petit film qu'ont fait vos collègues, ce qui va se produire.
Oui, j'ai pris conscience en fait que l'informatique était en train de changer la société, donc on était en 2012. En fait, entre-temps, il y a l'intelligence artificielle qui a débarqué. J'ai eu cette conscience en fait qu'on était au milieu du guet. On est dans une transformation qui est loin d'être terminée. Il y a des études qui disent qu'on ne connaît pas 65% des métiers de 2030.
Métiers demain, oui.
Et c'est une réalité. En fait, tous les jours, on voit des métiers qui disparaissent et d'autres qui se créent. Et le numérique change ça.
Alors, un an plus tard, vous quittez votre travail, vous vous lancez dans votre projet, parce qu'effectivement, comme vous l'avez justement précisé, votre fils a 8 ans et que vous vous dites c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à emmagasiner les choses, et vous cherchez à l'inscrire à des cours, et il n'y en a pas. Donc vous vous dites, je vais le faire.
C'est exactement ça. J'ai été sidérée de voir qu'en fait, il y avait un écart phénoménal entre l'importance du numérique, de l'informatique et sa place dans l'éducation. 2012, moi, quand je disais aux gens, je vais apprendre à coder à des enfants, on me regardait un peu comme si j'étais une extraterrestre. Hein. C'était pas du tout rentré dans les programmes à l'époque.
Alors qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une évidence.
Alors, c'est rentré dans les programmes scolaires. Donc déjà, c'est obligatoire à partir de la 5e, c'est préconisé dès le primaire. Il y a des pays où c'est vraiment dans le dur dès le primaire. Donc on peut dire que oui, on est passé à une autre époque. Même s'il y a encore plein de gens qui se demandent si ça sert à quelque chose pour les enfants.
Alors justement, Elisabeth, c'est important d'apprendre à coder dès le plus jeune âge.
Lire, écrire, compter et coder, évidemment. Pour vous donner une idée, et vous venez de le confirmer, hein, Claude, en 2012, il n'y avait qu'une centaine de formateurs pour enfants dans le monde. Hein. Il y en avait en Finlande, en Corée, il n'y en avait même pas aux États-Unis. Depuis, ça a beaucoup, beaucoup changé en très peu de temps. Parce que créer un jeu vidéo, fabriquer un robot, ça suppose d'abord de travailler en groupe. Ça, c'est vachement important pour les enfants, dès le plus jeune âge, d'apprendre à travailler en groupe, de définir ensemble des objectifs, de décomposer une tâche qui paraît complexe en une série de petites tâches qui le sont moins. Et puis le codage, ça aide aussi nos enfants à accéder à une culture informatique qui est indispensable aujourd'hui pour leur avenir professionnel. Vous savez qu'on ne connaît pas tous les métiers que feront nos enfants. Alors évidemment, ils ne vont pas tous être ingénieurs, informaticiens, mais tous, ils devront gérer dans leur métier, savoir ce qu'est un réseau, un virus, ou pourquoi pas savoir crypter juste des données.
Oui, et pas seulement, parce que vous dites qu'il faut pouvoir apprendre à créer, et le code, finalement, c'est ouvrir l'imagination des enfants, en tout cas leur donner des briques de Lego, comme ça, qu'on peut ajouter.
C'est exactement ça. En réalité, le code, ça permet de faire des trucs géniaux. Nous, on permet à des enfants au collège de créer, ils vont coder eux-mêmes une application mobile, ils vont décider ce que c'est. Ça peut être un quiz, ça peut être quelque chose pour interagir avec leurs copains. En fait, on les met dans une posture, et moi, j'y crois beaucoup pour les futurs citoyens, les futurs adultes qu'ils seront, on les met dans une posture de dire, quand je vois quelque chose, je veux monter un projet personnel, professionnel, et bien en fait, je vais pouvoir identifier qu'est-ce que je vais pouvoir coder ou faire coder à quelqu'un d'autre pour que mon projet ait plus d'impact.
Vous avez un exemple en tête ? De quelque chose que vous avez fait réaliser à des jeunes.
En ce moment, on a des lycéens qui inventent des applications pour le bien commun. C'est un programme Tech for Good. J'ai des jeunes, ils se sont rendus compte que dans leur lycée, il y avait 6 tonnes de nourriture qui étaient jetées à l'année dans un établissement de 300 personnes. Et donc, ils sont en train, en ce moment, de coder une application qui permettrait aux cuisiniers de la cantine de déclarer leur menu en ligne pour que les élèves puissent choisir à l'avance et que du coup, il y ait moins de gaspillage. Voilà un exemple concret de jeunes qui se disent, voilà, il y a un problème et je peux utiliser le code pour le résoudre. C'est un outil. C'est un outil.
C'est un outil formidable, Laurent Choin.
À deux titres. Le premier, c'est que ce n'est pas un transfert de connaissances. Et ça, c'est la vraie révolution. Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche beaucoup à faire, au-delà de compter et d'écrire quand on est dans les petites classes, c'est transférer de la connaissance. Là, c'est du transfert de compétences directes. Mmh. Et donc, y a une question qui me vient du coup, qui se pose autrement, c'est que ces compétences aussi, elles sont vite obsolètes. Donc en fait, est-ce que vous transmettez juste une compétence directe ou c'est plus profond que ça ?
Alors justement, tout à l'heure, Raphaël le disait, notre baseline chez Magic Maker, c'est apprendre à coder pour apprendre à créer. Le vrai mot, c'est créer. C'est-à-dire que OK, ils vont apprendre un langage qui leur permet de coder un jeu vidéo, une application mobile. Mais en fait, ce qu'ils vont apprendre chez nous, bien plus que quel langage, quelle commande fait quoi, comment je fais pour faire plus un, etc. Ce qu'ils vont apprendre, c'est une manière de résoudre des problèmes. De dire, OK, j'ai un problème, OK, j'ai le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que je pourrais le faire? Quel procès je vais mettre en place? Comment je vais pouvoir trouver la solution quand ça marche pas?
Ça leur donne une nouvelle grille de lecture, finalement.
Exactement. Et surtout, ça leur apprend à résoudre des problèmes collectivement, à trouver des solutions. Ces compétences-là, ce sont celles dont on a besoin aujourd'hui en entreprise et c'est celles dont on aura encore plus besoin parce que nos métiers bougent tous les jours.
On les intéresse quand ils sont petits, par exemple, qu'ils ont 8 ans, en leur disant, tiens, tu vas créer ton propre personnage de jeu vidéo, par exemple?
Exactement. En fait, à chaque âge, ce qu'on fait, nous, c'est proposer des projets qui vont être concrets, qui vont leur parler. Donc, effectivement, les petits, au primaire, ils vont coder des petits jeux vidéo. Ils vont aussi pouvoir fabriquer des robots en Lego. Par exemple, ils peuvent fabriquer une petite voiture. On a un petit capteur de distance. Quand j'approche la main, ça détecte qu'il y a quelque chose qui... Et eux, ils font une petite ligne de code qui dit, si tu détectes que quelque chose s'approche du capteur, déclenche le moteur et ça fait rouler la voiture. Donc c'est des choses comme ça, hyper concrètes, simples, ludiques, qui leur parlent. Et puis après, plus ils grandissent, ce qu'on va leur proposer comme projet vont être plus en adéquation avec leurs aspirations. Ils peuvent faire des jeux vidéo, après quand ils sont plus grands, des jeux vidéo en trois dimensions, là, sur Unity, ou comme un first player shooter. Vous savez, quand vous avez Clara dans Tomb Raider, là.
Oui.
Voilà, ce genre de trucs, ils vont être capables de faire ça. Ils vont pouvoir faire des applications mobiles, des sites web. Donc vraiment des choses concrètes qui ont du sens. On va même jusqu'à faire de l'intelligence artificielle.
Alors dites-moi, vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes où? Magic Makers, ça a démarré en région parisienne, puis à Bordeaux. Il y a d'autres projets. Vous avez commencé avec 200 enfants inscrits en extrascolaire et aujourd'hui, 2200 inscrits.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, alors on est pour l'instant principalement présent en région Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine. On a là, des choses que je ne peux pas encore annoncer parce qu'on va travailler avec
c'est
des
dommage,
collectivités en province.
Allez, donnez-nous quelques...
Ah non, je ne serai
pas... Au moins une région. Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, voilà.
Mais c'est large, hein, il y a du monde.
Non, mais comme ça, les gens qui nous écoutent en Auvergne-Rhône-Alpes vont pouvoir commencer.
Dans les autres régions, d'ailleurs, s'ils veulent faire des choses avec nous, on cherche à pouvoir diffuser sur le territoire. Aujourd'hui, on est déjà présent dans 50 lieux. On a 2200 enfants qui sont inscrits, c'est-à-dire qui viennent toutes les semaines pour une heure et demie d'atelier, toutes les semaines, hein, du primaire, collège, lycée. On fait des stages à chaque vacances et on ne cesse de chercher des nouveaux partenaires pour pouvoir proposer dans nos ateliers dans le plus grand nombre d'endroits, toucher le plus grand nombre. Nous, on pense que tout le monde en a besoin.
On reste ensemble et on continue à apprendre à coder avec vous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Former les enfants pour les générations futures, mais aussi permettre aux adultes que nous sommes de prendre le train en marche, c'est ce que fait la Wild Code School. A tout de suite sur Europe 1.
Maîtriser HTML, CSS, JavaScript ou encore PHP, on apprend à décoder le codage cet après-midi dans
React.
La France Bouge avec nos invités Raphaël et vous. Savez-vous coder? Trouvez-vous que ça devient indispensable à notre époque? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921. J'ai pas dit de bêtises du coup.
Non, mais non. Ça c'était avant.
Ça c'était avant.
Vous voyez, Nicolas Charpentier qui est à la réalisation de cette émission suit. Hein. Quand on est jeune, on vient de le voir, apprendre à coder est beaucoup plus simple. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous reconvertir une fois adultes. Bonjour Anna Stepanov.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé la Wild Code School. Vous informez justement les adultes au métier du numérique. Vous avez commencé, vous, à vous y intéresser il y a déjà pas mal de temps, quand on a vu apparaître les fameux premiers MOOC et les premières écoles du numérique.
Absolument. En 2013, j'ai fondé la Wild Code School, justement pour former au métier numérique, notamment le métier de développeur, parce que j'avais moi-même un double parcours, donc un parcours dans l'enseignement en tant qu'enseignante et côté entreprise, et j'ai vu un écart qui se creusait dans la façon comment on enseignait ces métiers et les besoins des entreprises.
Donc vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour faire en sorte que cet écart se rétrécisse?
Absolument. Donc en fait, il fallait vraiment trouver une autre façon d'enseigner ces métiers.
Parce que qu'est-ce qui n'allait pas?
Parce que ça bouge tout le temps. Parce qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent tout le temps. Donc on a besoin de réinventer les cursus plus ou moins deux fois par an. Voilà. Et donc à l'université, forcément, on ne les réinvente pas, nos cursus, tous les années. Et donc, j'ai fondé la Wild Code School avec une formation assez courte de 5 mois où à la fin de chaque session, on va repenser le cursus et le programme et les technologies qu'on va enseigner pour se, répondre au plus près des besoins des entreprises.
Ça signifie que chaque cursus, finalement, met une pierre pour le cursus suivant.
Absolument. On se retrouve avec nos formateurs à la fin de chaque 5 mois pour regarder les nouveautés sur le plan technologique et on va les réinjecter dans notre cursus.
Vous montez votre société, vous l'avez dit, en 2013. Vous trouvez un local à Paris et vous trouvez aussi et surtout un autre local dans l'Eure-et-Loire. Et il y a une mairie qui accepte de vous mettre à disposition un bâtiment. Ça, c'est aussi important dans votre parcours.
Absolument. Donc, notre école, elle a démarré en fait à la campagne, à La Loupe, une petite ville de 3500 habitants, dans un ancien collège désaffecté qui était mis à notre disposition pendant un an par la mairie, tout à fait, pour qu'on puisse expérimenter cette pédagogie originale gratuitement pendant un an, avec une première promotion, donc je me rappelle, une trentaine de personnes qui ont démarré en 2014.
Et alors avec quel profil? Qui sont les adultes qui poussent la porte de cette Wild Code School?
Ouais. Nos élèves sont essentiellement des personnes en réconversion professionnelle, on va dire entre 25 et 40 ans, bien que l'école est accessible à partir de 18 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Et ce sont des personnes qui se sont retrouvées dans un métier en décroissance, en disparition, parce qu'il y en a de plus en plus, ou qui ne se sont pas retrouvées, donc qui étaient mal orientées, ou veulent tout simplement aller vers les métiers qui recrutent. Donc notamment les métiers tech. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a une grosse pénurie de l'emploi dans les métiers numériques. Le métier de développeur est très, très recherché.
Est-ce qu'on leur apprend comme on apprend à des enfants? Est-ce qu'on les fait passer par l'étape, par exemple, du petit robot ou du jeu vidéo?
Alors, notre formation, elle est de 5 mois. Elle est assez courte, très intensif, puisqu'on veut les rendre opérationnels et employables. Donc, c'est un petit peu moins ludique, très honnêtement. Voilà, donc on peut-être s'amuse un petit peu moins, puisqu'on a aussi des adultes, on a des attentes, mais on va clairement faire beaucoup de formats différents dans l'enseignement pour aller au plus vite vers les compétences précises qu'ils doivent acquérir.
Laurent Chouin.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui blended, c'est-à-dire un mix entre du présentiel et de la distance. C'est assez intéressant pour les métiers du numérique que ce ne soit pas justement tout en distance.
Absolument, absolument. En fait, on a à la fois des vrais locaux, donc on réunit nos élèves physiquement dans les locaux, on crée un collectif, un groupe soudé qui travaille ensemble et on a une plateforme pédagogique qui va les accompagner tout au long de la formation pour rendre cette pédagogie la plus efficace possible.
Elisabeth ?
Alors vous les voyez, ces adultes hein, qui essayent de s'initier au métier, au codage, quelles sont les principales difficultés à laquelle font face les adultes, parce que ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est-à-dire, on n'a pas la même façon d'aborder le codage par rapport aux enfants. Comment ça se passe?
Ouais, je pense que dans ces métiers, il faut vraiment apprendre à gérer l'inconnu. Parce qu'on ne peut jamais tout savoir dans la technologie. On ne peut jamais maîtriser complètement la technologie. Et donc parfois, les personnes très scolarisées, ils ont besoin de tout comprendre, construire leur théorie parfaite dans la tête avant de pratiquer. Et on ne peut absolument pas fonctionner comme ça. Il faut aller commencer à bidouiller, à faire les choses et apprendre en faisant.
Donc c'est l'inconnu.
C'est l'inconnu, oui.
Vous êtes aujourd'hui 90 salariés dans l'entreprise. C'est quand même une belle performance en si peu de temps. Vous avez 24 campus, dont 11 à l'étranger.
Absolument. Absolument. Nous avons 13 campus en France, dans la plupart des grandes villes et à la campagne.
Oui.
Et donc 11 campus aussi dans des villes telles que Berlin, Londres, Dublin, Madrid, Lisbonne, etc. Et ce réseau européen que j'ai voulu construire nous aide aussi à ouvrir pour nos élèves les opportunités d'emploi dans tous ces écosystèmes.
On reste ensemble et on continue à coder aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Créer son appli sans coder, c'est aussi possible. C'est ce que propose Contournement. A tout de suite sur Europe 1. Mais d'abord, on va jouer.
Mais oui, on joue tout de suite même avec... si vous avez envie de voir Madonna en concert. Je pense que tout le monde ici a envie de voir Madonna en concert.
Oui, mais voilà, vraiment.
Vous ne pouvez pas jouer, Elisabeth et voilà. Raphaël. Mais les autres, oui, vous pouvez dès maintenant envoyer pour gagner des places de concert de Madonna à Paris au Grand Rex le 4 mars prochain avec la personne de votre choix. Le mot Madonna par SMS au 739-21, c'est 75 centimes, plus le coût du SMS, 2 SMS pour jouer. Le tirage au sort, c'est demain matin à 8h50. Hein. Vous connaîtrez les gagnants chez Mathieu Béliard. Alors pour jouer, c'est maintenant 739-21, code Madonna. On vous souhaite évidemment bonne chance. Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. Et dans La France bouge cet après-midi, on comprend ce qu'est le codage, la progression informatique, ce qui permet d'écrire des programmes pour développer des logiciels ou une page web, par exemple. Et nos invités vous prouvent que vous aussi, vous pouvez apprendre à coder. Si ça vous intéresse, dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921. Quelle grosse production, merci
vous
beaucoup.
Vous avez un message.
Avant 2010, c'est vrai qu'on ne se posait pas vraiment, en tout cas pas tous, la question du codage, mais ça c'était avant. Et pourtant, bonjour Erwan Kézard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un des fondateurs au départ de Simplon, que vous avez quitté pour vous lancer dans l'aventure Contournement, qui dit bien son nom, puisque vous proposez d'apprendre à monter un site internet, une appli, sans savoir coder. Du coup, ça, c'est vraiment pour moi. Racontez-moi comment on peut proposer des formations numériques comme vous l'avez fait, vous, pendant des années et décider de changer son fusil d'épaule.
Quand j'ai eu l'idée de Simplon à l'époque, avec l'un des cofondateurs, l'objectif, c'était de trouver des technologies les plus démocratiques possibles pour pouvoir produire des choses, fabriquer des choses, être des artisans du numérique, fabriquer des sites, fabriquer des applis. C'était pas vraiment la technique pour la technique, pour ainsi dire. Aujourd'hui, il y a des nouveaux outils, de nouvelles technologies qui s'appellent des technologies no-code, qui, comme l'indique leur nom, permettent de créer des sites, des applications mobiles, des projets numériques sans coder. Alors, ça fait un petit moment que ça existe,
mais
depuis un an ou deux, là, on voit vraiment des signes sans équivoque du fait que ces technos sont enfin matures, sont fiables, sont puissantes. Il y a des boîtes qui se montent, des startups numériques, sans faire appel à des développeurs. Par exemple, Comet, une startup française, une plateforme qui met en relation des freelances et des grandes entreprises, qui s'est lancée juste sur une plateforme de no-code, un outil no-code, Bubble, qui fait qu'ils n'ont pas eu à chercher de développeurs, qui n'avaient pas forcément l'argent pour payer, d'ailleurs, qu'ils ont pu être autonomes dans cette réalisation, dans ce lancement. Et ensuite, une fois que ça a marché, là, ils ont embauché des codeurs. Donc, c'est un très bon exemple.
Alors, c'est quoi le no-code ?
Le no-code, ce sont des outils, en fait. Nous, ce qu'on met dans le mot no-code, avec mon associé Alexis Kovalenko, ce sont des outils en ligne. Donc, je vais sur Google Chrome, sur Firefox, je me connecte en ligne. Je me crée un compte, j'ai rien à installer, rien à paramétrer. Et là, je peux déjà commencer à faire mon site ou mon application mobile sans coder, juste avec de la programmation visuelle. C'est-à-dire que je déplace des blocs.
J'ai pas besoin de savoir bidouiller, comme le disait Anna tout à l'heure, c'est ça ?
Mais pour le coup, c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire qu'on programme, on fait de la programmation, on donne des ordres aux machines, mais sans écrire de code. Donc, le fait d'apprendre ça enfant chez Magic Makers, mais c'est à peu près la même démarche, on va dire, dans le fond. D'ailleurs, l'un des outils que vous utilisez, Scratch, chez Magic Makers, chez Harvard, même dans les grandes universités américaines, ils utilisent ce genre d'outils où on n'a pas forcément à coder au début, puis ensuite on peut aller vers le code. Et quand on veut devenir développeur web, évidemment qu'il faut apprendre le code. Les outils no-code, c'est très puissant, mais ça a quand même ses limites. Nous, on le recommande surtout pour les personnes qui veulent lancer leur projet eux-mêmes ou elles-mêmes, sans forcément avoir de budget, sans forcément connaître tout ça. Et on a plusieurs exemples, notamment de gens qu'on a accompagnés. Et aussi pour les grandes entreprises ou les grandes startups ou les petites entreprises qui ont besoin d'automatiser certaines choses, des tâches qu'ils font à la main, ou alors de créer leur projet rapidement, leur première brique.
En 2019, vous avez monté la première formation intensive. Alors, c'est quoi une formation intensive ? Ça ressemble à quoi, par exemple ?
Alors là, c'est une formation qui dure 7 semaines, qui s'appelle Side Project. Ça veut dire projet à côté, enfin le projet qu'on fait à côté de son boulot. Et pour cause, c'est un soir par semaine et un samedi sur deux. Alors, ce n'est pas si intensif que ça, celle-ci. Au contraire, on veut laisser aux gens le temps d'avoir leur projet. Par contre, il y a du travail à la maison. Et là, pour le coup, par exemple, on a eu 4 entrepreneurs et entrepreneuses, enfin des gens qui avaient des projets. Par exemple, Nathalie. En fait, il y a 2 Nathalie. Donc, on va dire Nathalie H. qui avait pour projet de faire un guide des lieux woman-friendly à Paris. C'est-à-dire les lieux où on sensibilise sur le sexisme et tout ça, parce qu'il y a plein de restos, de bars, de choses. Et en fait, en quelques jours, elle a réussi à faire son application grandeparisienne.fr, grandeparisienne au pluriel, .fr. Et ce guide, qui est une application mobile, elle l'a fait en quelques jours.
Alors qu'elle ne connaissait pas, enfin, elle n'avait pas les bases pour coder.
Absolument pas.
Laurent, je vois que vous avez envie de poser une question.
Oui, parce que dans votre projet initial, il y a une idée solidaire et sociale que je trouve formidable, qui est de dire, finalement, c'est aussi fait pour des gens qui n'ont pas de diplôme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel on est sensible. On a, je crois, un ami commun au travers des Déterminés, Moussa Camara.
Absolument.
C'est-à-dire une association de gens
ici,
qui, justement, essayent de faire ça. Donc, peut-être expliquez-nous un peu comment, justement, vous amenez des gens qui, sans diplôme et peut-être sans confiance en eux, justement, vous amenez à avoir plus confiance en eux au travers de ce que vous faites.
Alors, c'est un très bon exemple, parce que, par exemple, avec Moussa Camara, donc des Déterminés, cette association qui accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses issus de quartiers populaires ou de zones rurales, on a un projet qu'on aimerait bien monter, on cherche des partenaires là-dessus, c'est de faire la première formation au monde sur plusieurs semaines sur faire son appli en no-code soi-même, sans dépenser d'argent, sans y passer du temps, sans risquer des retards et tout. Et uniquement donc, pour les déterminés, c'est-à-dire des personnes issues de quartiers populaires, de zones rurales, et qui parfois ont des projets pour aussi aider l'utilité sociale. Et du coup, l'idée, c'est de faire ça. Et on a envie de le tester, sachant qu'aujourd'hui, ils font déjà une promo avec French Tech Tremplin, où il y a une dimension très numérique, ce sont des projets numériques, où il va y avoir déjà un petit peu de no-code. On va travailler ensemble là-dessus. Mais c'est typiquement un exemple de « j'ai un projet », j'ai des envies, je sens qu'il y a du potentiel.
La technologie ne me bloque pas.
Je contourne l'obstacle technologique. C'est exactement l'objet de contournement.
Ouais, alors, contournement qui ensuite revient quand même au code, puisque vous disiez on a besoin après, de toute manière, de développeurs quand on veut aller plus loin.
Quand on dit no code, ça ne veut pas dire plus de codeurs. Ça, ce sont des discours qui vont certainement arriver parce que c'est en train de prendre en puissance ces technologies. Bon, on ne mange pas de ce pain-là.
Alors,
au contraire,
comment faire la nuance?
Le no-code, on peut quand même aller très loin. Par exemple, je veux faire l'équivalent d'un Airbnb, d'un Le Bon Coin. Je peux aller quasiment jusque-là avec certains outils.
Et finalement, ça m'ouvre une porte sur ce que c'est et peut-être que je vais avoir envie d'en savoir plus.
Aussi. Et surtout, je vais pouvoir tester pour voir si les gens vont utiliser mon outil, voir si ça a du succès auprès des clients, des utilisateurs. Et puis quand je commence, comme Comet, à avoir plusieurs centaines de revenus, centaines de milliers d'euros de revenus annuels récurrents, là je me dis, je commence à avoir des problèmes de riches, là je vais embaucher des codeurs et là je vais pouvoir passer à l'échelle.
Elisabeth, le codage, il est indispensable aujourd'hui, on le voit, mais ça a une histoire le codage.
Mais c'est surtout que ça ne date pas d'hier.
Bah non.
L'encodage et le verbe encoder, ça date de 1969, et peut-être même avant, mais c'est ce que j'ai pu remonter. Et donc évidemment, c'est lié à l'informatique. L'idée, c'est de coder des caractères, une manière de représenter des caractères, comme par exemple des lettres, des chiffres, des symboles, dans un système informatique. Et inutile de vous dire que c'est hyper important aujourd'hui, puisqu'on est entouré de numérique. C'est omniprésent dans le monde numérique et presque tous nos appareils électroniques que nous utilisons dépendent du code.
Et puis, on parlait des adultes qui se familiarisent au codage. Vous avez trouvé pas mal d'entreprises qui font un petit peu ce genre d'initiative.
Oui, parce que si on commence enfant, ça devient une évidence. C'est ce que nous disait Claude Thérosier tout à l'heure. Pour nous, les adultes, nous sommes nombreux à se dire « bon, c'est bien, ça m'intéresse, mais que se passe-t-il derrière notre téléphone Comment ça marche ?» Eh bien, il y a des entreprises, il y en a d'autres. Il y a par exemple le Wagon. C'est une start-up spécialisée dans la formation au codage, des formations courte ou longue. Elle a été cofondée en 2013 par un avocat et un ingénieur. Ils sont présents dans plusieurs villes françaises. Vous avez aussi les Coding Days que vous connaissez apparemment. Eux, ils se sont donnés pour mission de rendre l'apprentissage du code facile, accessible à tous. Il ne faut pas se censurer autour du codage. Tout le monde peut y goûter grâce à des sessions d'une journée et des tarifs pas très élevés.
Voilà, c'est pour nous. Je crois qu'on va devoir y aller.
Il faut qu'on s'y mette tous.
Exactement. On reste ensemble et on continue à coder. Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend avec vos questions, vos suggestions, vos idées. Vous êtes les bienvenus au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1. À tout de suite. Europe 1.
Et cet après-midi, dans La France bouge, Raphaël, on apprend à coder. On apprend à coder avec vos invités.
Nous sommes avec Claude Thérosier, fondatrice de Magic Makers, Anna Stepanov, fondatrice de la Wild Code School et Erwan Kézar, cofondateur de Contournement. Notre coach aujourd'hui, c'est Laurent Chauhin, DRH de Mazars, et à mes côtés, bien sûr, Elisabeth Assayagela. On a des réactions, je crois, sur Twitter.
Oui, on a une réaction alors de Papisco45, ça c'est les surnoms Twitter, qui nous dit « Très belle initiative de faire coder très tôt les enfants, de leur faire créer des algorithmes qui développent leur intelligence. Chapeau !»
Chapeau, effectivement. Et vous nous disiez hors antenne, Erwan, qu'il se passe beaucoup de choses dans le Made in France, dans ce domaine-là, aujourd'hui.
Absolument. On était en novembre à San Francisco à la première conférence mondiale du no-code. On était les seuls Français pour le coup, mais ça bougeait pas mal. On s'est dit, en fait, en France, on n'est pas du tout en retard. Déjà, il y a plusieurs outils no-code français qui sont passés sur des médias de start-up très connus comme Product Hunt, enfin des plateformes. Il y a Naker pour faire des interactions 3D, soi-même sans coder. Celestory pour faire des serious games. Et ActionDesk pour faire des tableurs hyper intelligents. Mais il y a aussi des grandes entreprises qui s'y mettent. Par exemple, on travaille avec Prisma Media, qui forme ses équipes au no-code, notamment pour fluidifier les processus d'innovation, désengorger la DSI et tout. Là, il y a un hackathon, donc un marathon du no-code qui s'organise le 1er avril à Carpentras, à côté d'Avignon. C'est un événement national avec la French, organisé par la French Tech Grande Provence. Il y a à Marseille le premier No Code Conférence organisé par la briqueterie, un lieu local.
C'est la preuve qu'effectivement, il se passe des choses et qu'on est dans la prise de conscience. Laurent ?
Ben alors là, il y a un no-code marathon, mais ce soir, puisque c'est la nuit du coding, il y a un marathon du coding avec des gens qui vont faire ça, mais il y a aussi des conférences très intéressantes. Et moi, j'avais une question pour Claude en particulier. Il y a deux personnes qui vont intervenir. Une qui s'appelle Manuel Dorn, il est connu sous un nom bizarre, Corben, mais qui est un type qui a écrit un bouquin intéressant sur l'addiction au smartphone. Et puis, il y a une autre fille qui s'appelle Cassidy Williams, qui est très connue parce que c'est quelqu'un qui a participé à une idée qui s'appelle Big Dream et qui montre qu'on peut être une femme et réussir dans le numérique. On sait que c'est compliqué à des barrières. Alors vous êtes un peu un rôle modèle là-dessus vous-même, vous avez parfaitement réussi. Comment vous faites ça et avec des enfants, c'est important comme question.
En fait, c'est un sujet extrêmement important. Moi, quand j'ai eu l'idée d'apprendre à coder aux enfants, c'était pour leur donner la compréhension du monde dans lequel ils vivent, même plus que ça, du pouvoir dessus. Et donc mon idée de départ, c'était que c'était pour tous les enfants. Et je me suis rendu compte en fait que les parents, ils inscrivaient plutôt leurs garçons que leurs filles. Et que dans mes ateliers, je retrouvais les mêmes problèmes que ce qu'on retrouve les chiffres aujourd'hui. C'est que dans les métiers du numérique, on est entre 20 et 30% de femmes. Dans l'entrepreneuriat, pareil. Enfin, il y a vraiment... Alors que on sait bien que c'est le futur.
Sont des biens inconscients.
Ouais, c'est le futur de l'économie. Et voilà, il y a des biens inconscients très très forts qui sont en jeu. Je crois que les chiffres sont terrifiants. Dans les études scientifiques, on a 10% de filles. Donc forcément, ça veut dire en fait que toutes les applications qui sont créées sont majoritairement créées par des hommes. Et donc avec forcément une vision qui est masculine et on ne voit souvent que la moitié des problèmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des biais algorithmiques. C'est justement tous ces cas où on va concevoir un algorithme en ne prenant en compte que sa vision de la solution du problème.
Alors, je voudrais rebondir parce qu'on avait reçu, Elisabeth, vous vous en souvenez sans doute, Adatech School, qui justement est en train de faire changer le regard et faire entrer les filles dans cet univers. C'est aussi un parti pris finalement.
Oui, tout à fait. Chloé Hermarie, elle fait un super boulot. Je pense qu'on est beaucoup à se mobiliser en ce moment. Alors déjà, ça passe par juste prendre la parole. Moi, je suis une femme dans le numérique, à monter sa boîte. Dès qu'on m'invite pour parler de ça, je le fais parce que plus on multiplie les exemples, plus on fait quand même bouger les biens inconscients. Moi, j'étais contente de voir des journalistes femmes comme Christine Ockrent ou Anne Sinclair. Ça pouvait montrer que c'était possible. Donc c'est pareil. Je pense que ça ne suffit pas.
Il y a beaucoup de start-up dans l'éducation pour initier les enfants au code montées par des femmes. Je pense à Colori qui a eu le trophée européen de l'avenir autour de l'éducation cette année. On a Start-up for Kids, avec Sharon Sofer, que nous connaissons
qu'on a reçu aussi.
Qui propose des ateliers, entre autres, pour initier les enfants au codage. Donc, c'est marrant de voir aussi beaucoup de femmes à l'initiative de ces projets.
Anna, si je peux, oui.
Une autre femme, d'ailleurs.
En fait, il y a aujourd'hui de vraies opportunités pour les femmes dans les métiers numériques. Parce que nous, on voit, au niveau de nos élèves à l'école, qu'il y a moins de femmes qui se dirigent naturellement dans ces métiers.
On se freine naturellement.
Ça s'appelle de l'autocensure. Mais, à la sortie, les femmes ont systématiquement plus d'opportunités et d'offres d'emploi. Et potentiellement peuvent négocier mieux leur salaire. Parce que tout le monde veut des femmes aujourd'hui développeuses. Il y a des vraies opportunités. C'est un rare secteur. Il y a de vraies opportunités pour les femmes aujourd'hui.
Je vois qu'Erwan acquiesce aussi.
Hein. Oui. Mais d'ailleurs, on fait pas mal d'ateliers d'initiation gratuits au no-code. Sur notre site contentement.io, il y en a plein. Et en général, on a à peu près 50% de profils féminins.
Ah, donc c'est en train la fracture est en train de se réduire.
Je pense sur les technologies en général. Mais là, en tout cas, sur le no-code, on constate qu'il y a une vraie diversité.
Laurent ?
C'est important, et je formule ça d'une manière, on a parlé des déterminés, je crois que ce qui est important maintenant, c'est d'avoir des déterminantes, c'est-à-dire des rôles modèles féminins, parce que c'est comme ça que ça se fait.
Elles sont là autour de la table.
Voilà, exactement.
Merci, en tout cas, d'être venu nous aider à lever un coin du voile sur le codage, nous aider à apprendre à coder, parce que, vous l'avez dit, c'est important pour les générations futures et aussi pour nous de savoir dans quel monde on vit. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
Et on va rester ensemble. On va faire un gros plan aujourd'hui sur une entreprise qui va bien, qui a 25 ans. C'est la maison Meljac. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Meljac. Bonjour Jean-Michel Lagarde.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette belle maison qui a été créée en 1995 par André Bousquet, qui disait un interrupteur ne doit pas être seulement fonctionnel, il doit être séduisant, voire sensuel. J'adore cette phrase. Alors, j'ai dit 95, Mais finalement, c'est même un peu avant.
Ah oui, c'est même une dizaine d'années plus tôt qu'il a commencé à réfléchir à ce projet.
Il est électricien.
Il est électricien, aveyronnais, mais il a toujours travaillé à Paris. Donc, il est dans du chantier haut de gamme, de l'électricité tout à fait classique. Et il a des clients, quelques-uns du showbiz, qui lui disent « Mais il manque une touche finale dans notre appartement. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir dans l'électricité quelque chose d'un peu plus haut de gamme, plus décoratif ?»
Oui, il faut dire que dans les années 80, c'est quand même le règne du plastique. Hein, l'interrupteur qu'on connaît, qu'on a tous vu. Et lui, ben, il essaye de bricoler, je dis bricoler, mais bricoler des choses un peu plus élaborées. Il travaille d'autres matières.
Exactement. Déjà, c'est bricolé au départ, hein, parce que les 10 premières années avant, véritablement, qu'il crée Meljac, il met une dizaine d'années à créer son produit, à bricoler des choses, à le normaliser, parce que forcément, c'est l'époque du tout plastique. Là, on a un interrupteur en métal, donc l'électricité métal, ça demande quand même un certain nombre de mesures de sécurité.
Ouais.
Il a mis un peu de temps. Mais c'est vrai qu'en 1995, quand il crée Meljac, très vite, il abandonne son activité d'électricien pour se consacrer à la fabrication.
Pour se consacrer à la fabrication, et alors il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ça s'appelle Meljac.
Ah, alors c'est effectivement une anecdote intéressante. Meljac, c'est le nom du village de naissance d'André. Un Aveyronnais, je crois, toujours attaché à ses racines. Et donc, ça l'a amusé de dire, ben voilà, je vais donner en mémoire de mes racines le nom Meljac à ma société.
Alors, en 95, il démarre. Ça marche vite. Ça marche très bien, très vite. Les prises, les interrupteurs, tellement bien que 4 ans après, il va ouvrir le tout premier atelier à Ivry-sur-Seine.
Oui, alors la progression, effectivement, est assez fulgurante. Il est fan des années 30, donc il crée cette goutte iconique. Je vous ai apporté un produit qui est vraiment le standard de chez Meljac. Oui. Cette goutte qui est vraiment issue d'un design années 30. Et c'est vrai que ça va assez vite. Donc très vite, il passe des premiers assemblages qui étaient dans Paris à un vrai atelier en région parisienne.
Oui, il va grossir avec un showroom aussi à Lyon. Il va commencer à avoir des architectes, des décorateurs qui s'intéressent à tous ces produits.
Oui, il a été beaucoup poussé par les grands architectes français. On a la chance en France d'avoir des architectes de renom. On a travaillé récemment sur la dernière ligne cannelée que vous avez également sur le plateau avec Jean-Michel Villemotte, qu'on ne présente plus hein, comme architecte en France. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de plaire à ces grands prescripteurs et donc qui ont permis à Meljac de se développer.
En 2009, il va racheter aussi un autre atelier. Puis il va construire une usine à sa mesure pour des produits finalement qui sont aujourd'hui des produits, on dit haut de gamme, on pourrait dire des produits de luxe.
Oui, alors le luxe fait toujours un peu peur. L'interrupteur, il reste accessible parce que voilà, un interrupteur.
Mais basique, on est dans le sur-mesure.
Mais on est quand même dans le sur-mesure, dans la personnalisation. Nos produits sont tous fabriqués en France, en région parisienne. Il y a une vingtaine d'étapes. Manuel, vous parliez du deuxième atelier racheté en 2009. C'est un atelier dit de traitement de surface pour faire les décors. Le polissage est fait à la main, les décors sont trempés à la main, il n'y a aucune chaîne et c'est ça qui fait véritablement la qualité perçue du produit à la fin.
Notre coach, Laurent.
Est-ce que le luxe ultime, c'est pas finalement plus d'interrupteurs, c'est-à-dire commander à la voix, commander au claquement des mains. J'ai passé une hôtellerie de luxe où je me souviens qu'on faisait ça et ça ne marchait pas. Mais est-ce que l'avenir, ce n'est justement pas des technologies qui, justement, éliminent
la partie ? Je ne crois pas, je ne partage pas. Je pense que c'est complémentaire. Aujourd'hui, déjà, on fait de l'interrupteur un objet de déco. Donc, ce n'est plus un problème si l'interrupteur, il est beau. Et c'est bien d'avoir les deux. Parce qu'un jour, quand votre smartphone est déchargé, ben, vous avez envie d'éteindre la lumière. Il y a des hôtels qui se sont essayés à ce tout technologique et qui reviennent un peu. Il faut les deux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un des challenges de Meljac, c'est de suivre cette évolution et de faire en sorte que ces interrupteurs design, fantastiques en termes de qualité de produit, s'adaptent à la domotique, l'informatique qui gère nos intérieurs.
Qu'est-ce que vous, Jean-Michel Lagarde, vous cherchiez en rejoignant le groupe Meljac il y a 5 ans? Vous arrivez dans l'aventure, vous avez travaillé dans le luxe, on en parlait pour Barbara Buy. Vous aviez justement ce besoin de rentrer dans une sorte de famille, d'entreprise où on a des valeurs, où il y a une certaine authenticité.
Ah, ça, c'est certain. Déjà, c'est une rencontre avec André Bousquet, qui nous a quitté hélas l'an dernier, mais qui était quelqu'un d'irremplaçable et vraiment un monsieur de la profession et un monsieur tout court dans la vie. Donc cette rencontre, elle est importante. Je pense qu'on partageait un certain ADN de passion, de beaux produits et de valeurs humaines. C'est peut-être quelque chose qui m'a un petit peu manqué dans la mode.
J'ai dirigé effectivement une
entreprise. J'ai toujours été dans des business familiaux, dans des entreprises familiales. Je suis moi-même issu d'une PME familiale ou dans l'artisanat. Donc je pense que ça a aussi aidé à comprendre les valeurs des dirigeants familiaux et de pouvoir travailler à leur côté parce que voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là. Mais c'est vrai que chez Meljac, c'est extrêmement fort. L'humain, il est capital. On fait tout à la main. C'est nos équipes qui font le produit. Nous, on les accompagne, on les emmène, on donne de l'énergie. Mais c'est eux qui sont le produit. Et si on ne les a pas avec nous, près de nous, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, il y a 2 ans, vous avez ouvert la première filiale américaine. Et pourtant, il y a des difficultés, notamment la formation des jeunes, pour transmettre toutes ces valeurs et tout ce savoir-faire.
Alors la difficulté, effectivement, elle est dans le recrutement sur les métiers industriels. En France, c'est des métiers qui restent peu valorisés. On a fait des partenariats avec des écoles. On est très content de ce système-là parce qu'on découvre qu'en banlieue, il y a des jeunes sur des métiers techniques qui sont extraordinaires, quoi. Forcément, comme partout, il y en a qui sont bons et puis d'autres un peu moins. Mais on en trouve des jeunes qui ont envie de progresser. Alors que sur le marché, ces gens-là, on ne les trouve pas. Donc c'est vrai qu'on est rentré vraiment dans une logique d'aller les chercher le plus tôt possible, de les faire rentrer dans l'univers Meljac, dans cette entreprise voilà, qui a ses valeurs. Et après quelques années d'apprentissage, on essaye de garder les meilleurs, ceux qui nous correspondent le mieux, qui se sentent le mieux. Ça fonctionne bien. On a rentré déjà plusieurs en CDI à la suite de l'apprentissage.
Vous êtes 80 aujourd'hui
on
chez Meljac.
On est à peu près 80. Ouais.
9,3 millions de chiffre d'affaires. La suite, c'est quoi ?
La suite, en termes de développement, on est vendu dans 60 pays. On fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'export. Mais on est encore très peu présent sur le marché asiatique. Bon, c'est peut-être une chance en ce moment. On commence tout juste à se développer au Moyen-Orient. Donc, je dirais qu'il reste encore de beaux marchés à conquérir.
De beaux marchés à conquérir, effectivement. C'est Meljac, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Jean-Michel Lagarde d'être venu nous raconter un bout de son histoire. Merci à Laurent Choin, DRH de Mazars, qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth, Céline, on se dit à demain. Et nous serons...
Ah mais oui, on sera avec nos amis les vaches.
Et oui, en direct du Salon de l'Agriculture.